une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 24 octobre, nous nous retrouvons pour une nouvelle exploration de 7 jours d'actualité avec bien sûr les reportages de la rédaction. Une actualité marquée par les suites de l'assassinat il y a une semaine de Samuel Paty, professeur d'histoire et de géographie, décapité pour avoir fait son métier d'éclaireur en quelque sorte. Et si vous me le permettez, j'aimerais mettre une citation de Voltaire en exergue de cette émission. Plus la raison se développe, plus elle effraie le fanatisme, écrivait-il dans une des lettres de sa volumineuse correspondance. Une semaine d'actualité, notre invitée Jeannette Bougrabe, qui vient d'écrire Un silence de mort, un livre courageux sur l'indifférence de la communauté internationale, entre guillemets, face à la guerre du Yémen. Avant d'écouter Jeannette Bougrabe, revenons d'abord sur la cérémonie d'hommage national à Samuel Paty, mercredi soir, dans la cour de la Sorbonne à Paris. Écoutons un extrait du discours qu'Emmanuel Macron y a prononcé.
Samuel Paty est devenu vendredi le visage de la République, de notre volonté de briser les terroristes, de réduire les islamistes, de vivre comme une communauté de citoyens libres dans notre pays. Le visage de notre détermination à comprendre, à apprendre, à continuer d'enseigner, à être libre.
Nous dédions cette émission à tous les professeurs qui, de par le monde, en Afrique notamment, exercent leur métier dans des conditions difficiles. RFI s'est d'ailleurs intéressé à eux cette semaine dans une sorte de tour du monde des enseignants. Écoutez par exemple ce reportage de Kaourou Magassa au Mali.
Maudit Samba Touré est enseignant dans la ville de Kidal, mais c'est dans une gargote de Bamako qu'il déjeune. En 2014, il est gravement blessé lors d'une visite contestée du premier ministre d'alors dans le fief des ex-indépendantistes. Depuis, il est exilé à 1500 km de son poste et de son école.
Je suis toujours au compte de Kidal, mais nous n'enseignons pas, nous ne retournons pas parce que nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous ne sentons pas à ce que le lieu soit trop propice, d'autant plus que l'État malien ne couvre pas Kidal. D'autant plus que l'État n'est pas présent dans toutes les structures de Kidal, d'autant plus que la sécurité n'est pas assurée par l'armée malienne.
Dans le nord et le centre du pays, des livres ont été brûlés en auto-da-fé, des écoles ont été fermées sous la pression terroriste. Pour Amadou Koulibaly, syndicaliste, le constat est amer.
Ces soi-disant musulmans qui sont sur le terrain, qui sont les éléments de Amadou Koumfa, ou bien qui sont les éléments de Yad Agali, ne veulent pas qu'on transmette le savoir classique, ça veut dire le savoir des Français, aux enfants. Et ils veulent qu'on applique le Coran aux enfants qui sont dans ces zones.
Selon le responsable syndical, de plus en plus d'enseignants arrêtent le métier afin de ne plus être une cible. Aucune donnée chiffrée n'existe sur ces reconversions, mais plus de 1200 écoles ont été fermées au Mali du fait de l'insécurité.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Jeannette Bougrabe, merci d'être à ce micro. Vous êtes ancienne secrétaire d'État et présidente de la HALD et auteure d'un livre que j'ai trouvé très courageux qui s'intitule Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen, un livre publié aux éditions du CERF. Alors il va être question de l'islamisme, de la lutte contre le djihadisme dans cette émission, aussi bien en France que dans le monde entier, car la guerre continue en quelque sorte.
La guerre continue, mais je pense que peut-être là, la France prend la mesure de ce qu'est l'islamisme, l'intégrisme. J'entendais en fait cet enseignant parler de ce qu'il vivait au Mali, et je ne pouvais pas m'empêcher de penser ce qui s'était passé en Algérie pendant la décennie noire, dans les années 90, où des enseignantes, en fait, ont été égorgées, assassinées, parce qu'elles voulaient continuer d'enseigner à leurs élèves. On leur disait qu'elles devaient rester à la maison. Je pense évidemment à la petite Malala qui, parce qu'elle voulait aller à l'école, parce qu'elle refusait d'être scolarisée dans une madrasa, en fait, a été l'objet d'une fatwa du Mollah Fazullah au Pakistan. Et on lui a tiré dessus alors qu'elle allait à l'école. Elle a survécu par miracle alors qu'elle a été blessée à la tête. Et elle a reçu le prix Nobel de la paix. Et donc, on oublie en fait que, à travers le monde, en fait, la première chose qu'essayent de faire les intégristes, c'est de toucher au savoir, à l'école. Alors, on tue parfois des enfants. on s'attaque aux enseignants parce que s'attaquer au savoir, c'est s'attaquer aux intégristes.
Alors nous allons revenir, Jeannette Bougrabe, sur cet attentat de vendredi, il y a plus d'une semaine maintenant, sur Samuel Paty. Mais parlons pour le moment de votre livre, qui est un livre de dénonciation de l'indifférence de l'Occident face à la guerre au Yémen.
Mais ce qui a lieu au Yémen...
Notamment.
Mais c'est la pire catastrophe humanitaire aujourd'hui, voilà. Mais personne n'en parle. Il y a eu, d'après les chiffres de certaines ONG, on serait plutôt la fourchette haute, en fait, du nombre de morts, c'est entre 250 000 et 400 000 morts. C'est ça la réalité. Quand vous lisez la presse anglo-saxonne, c'est ces chiffres qui sont donnés. Et en fait, on ne s'y intéresse pas parce qu'en réalité, on est dans la compromission. Moi, j'avais été frappée de la une du New York Times, en fait, où on avait mis la petite Amal, qui veut dire espoir en arabe. Cette petite fille, en fait, qui était la victime d'un embargo, parce que pardonnez-moi, je vais peut-être parfois un peu trop vite. Cette guerre a été déclenchée en 2015 par Mohamed Ben Salman, qui venait d'être nommé ministre de la Défense, et qui a décidé, en fait, qui prend prétexte, en fait, de la prise par le pouvoir des Houthis, d'enclencher une guerre contre le pays le plus pauvre de la péninsule arabique. La seule république aussi. Il ne faut pas oublier que tout autour, ce ne sont que des monarchies. Et cette guerre, en fait, dont les premières victimes sont des enfants, sont des femmes, en fait, n'intéresse pas les rédactions. Parce qu'en réalité, les trois grandes puissances, en fait, que sont les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, vendent à coups de milliards, en fait, découlent leur stock d'armes à l'Arabie Saoudite, aux Émiratis. Vous avez une coalition arabo-sunnite qui ont décidé de dépecer, en fait, cette terre qui est vieille de plusieurs millénaires.
Alors, il faut préciser, par exemple, que ces derniers jours, plus de 90 000 personnes ont été, par exemple, déplacées dans la province de Marib, qui est le théâtre de violents combats, donc entre ces rebelles Houthis soutenus par l'Iran et la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Notamment, c'est un dernier exemple en date. Hein.
En fait, ce qu'on essaye d'expliquer aux chancelleries occidentales, c'est qu'en gros, les gentils sont les sunnites et les méchants sont les chiites. Et c'est très surprenant parce que même les Américains, que ce soit des conseillers de la CIA ou d'autres, disent qu'en réalité l'influence iranienne est beaucoup plus faible qu'on pourrait le penser parce qu'il y a un embargo. Il y a un embargo très strict, notamment un embargo alimentaire, un embargo sur les médicaments, un embargo
sur l'Iran,
au Yémen, sur l'Iran et sur l'Yémen. Donc l'influence, en réalité, les Houthis ont récupéré des armes au moment en fait de la chute du président Saleh. Mais je trouve que cette lecture-là est erronée parce qu'elle permet de cacher en fait l'amontrabe. Et l'amontrabe, c'est la collusion, la compromission en fait de la coalition avec AQPA, Al-Qaïda Péninsule Arabique. Parce qu'en réalité, leur haine en réalité contre les Houthis va jusqu'à s'allier avec ceux qui sont à l'origine d'un certain nombre d'attentats dans le monde. Et notamment, je rappelle que AQPA avait lancé la fatwa contre Charlie Hebdo et qu'un des frères Kouachi, l'un des auteurs des attentats contre Charlie Hebdo, a fait un passage au Yémen. Donc quand vous avez les Émiratis qui finance en réalité, et c'est des enquêtes du Washington Post, le livre, je l'ai documenté au maximum pour éviter d'être attaqué, parce que personne n'ose éventuellement critiquer des États qui sont évidemment à coups de milliards, en fait, qu'on crée une sorte de dépendance diplomatique ou une dépendance à l'égard des États occidentaux. On finance en réalité AQPA pour pouvoir chasser les Houthis. Donc c'est un conflit compliqué. Le Yémen est une terre de rivalité.
Qui est très compliquée, effectivement.
Donc,
les rébellions ont été nombreuses.
Mais en même temps, regardez, le prix Nobel vient d'être accordé de la paix, pardonnez-moi, vient d'être accordé au PAM.
Au programme alimentaire mondial.
Et donc, sans le PAM, c'est plus de 24 millions de personnes qui sont au bord de la famine, en fait. Et de penser qu'après tout, d'autres conflits existent, c'est très grave, parce que on peut pas laisser mourir comme ça, de manière indifférente. Il y a plus de 100 000 enfants qui ont été tués. 100 000 enfants! Mais comment peut-on se draper des droits de l'homme et laisser par notre complicité, et on est complice, un rapport qui a été remis à Michelle Bachelet, l'ancienne présidente du Chili qui est haut commissaire aux droits de l'homme, a pointé des responsabilités et elle a sommé en tout cas les États-Unis, le Royaume-Uni et la France de cesser toute nouvelle exportation d'armes aux belligérants et en particulier à l'Arabie Saoudite et aux Émiratis. Et le seul État qui refuse cette injonction, mais cet encouragement à cesser, c'est la France. C'est la France, donc on a quand même un problème.
7 jours dans le monde.
Et partons pour les États-Unis, Jeannette Bougra, un peu moins de 2 semaines de l'élection présidentielle. Seul fait certain aujourd'hui, les Américains votent en masse depuis plusieurs semaines, tandis que Barack Obama a fait irruption dans la campagne mercredi. Reportage d'Anne Corpé.
Hello Philadelphia!
Barack Obama n'a pas perdu ses talents d'orateur, même si les spectateurs sont dans leur voiture et klaxonnent au lieu d'applaudir. L'ancien président est venu pour en découdre, incisif, percutant, parfois amusé. Il mène pendant une demi-heure une violente charge contre Donald Trump.
Clairement, ce président veut des louanges pour l'économie dont il a hérité et aucune critique pour la pandémie qu'il a ignorée. Mais vous savez, cela ne fonctionne pas comme ça. Tweeter devant sa télévision ne résout pas les problèmes. Inventer des histoires n'améliore pas la vie des gens.
Et Barack Obama dégrainait les terribles effets de la pandémie, d'évoquer les inconséquences du président, de moquer les théories conspirationnistes qu'il véhicule, avant de rappeler l'essentiel.
Nous devons voter comme jamais auparavant et ne laisser aucun doute.
L'ancien président insiste, la participation est un élément clé de la victoire pour les démocrates et pour que celle-ci soit incontestable, elle devra être éclatante.
Let's go make it happen. I love you, Philadelphia. Thank you. I love you.
Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés jeudi soir à Nashville lors d'un ultime débat dans le calme. Cette fois, un débat qui ne devrait pas profondément changer la dynamique à un peu plus donc d'une semaine de l'élection présidentielle. En Bolivie, le socialiste Luis Arce du parti MAS sera le prochain président après sa large victoire dimanche. Il est le dauphin d'Evo Morales. Rappelons que figure emblématique de la gauche sud-américaine, Evo Morales a dû quitter le pouvoir en novembre 2019 alors qu'il avait été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre, lors de laquelle il briguait à un quatrième mandat. L'opposition refusait de reconnaître sa victoire en affirmant qu'elle avait été obtenue par la fraude. Après une campagne de manifestations et des violences qui avaient fait plus de 30 morts et 800 blessés selon l'ONU, il avait démissionné et quitté la Bolivie. Après le départ d'Evo Morales, un pouvoir intérimaire s'est mis en place, dirigé par une sénatrice de droite, Jeanine Agnès, à La Paz, Oriane Verdier.
Il fait beau sur la place centrale de La Paz. Devant l'Assemblée législative et le palais présidentiel, les passants flânent au soleil.
Je ne fais que passer pour retrouver un ami, pour parler des élections. Nous sommes heureux parce que le gouvernement de transition n'a fait que voler et perpétrer des actes de corruption. Ils n'ont absolument rien fait d'autre. Bien sûr que les gens veulent du changement, mais comme ils n'avaient pas de meilleures options, ils ont préféré parier sur la sécurité.
Roy a donc voté de bon cœur pour le MAS. Sergio, lui, a voté nul, mais partage l'avis de son aîné sur le gouvernement de transition de Jeanine Agnès.
Je ne venais plus sur cette place. Quand Jeanine a pris le pouvoir, on est un peu retourné au temps des colonies. L'indigène était tenu à distance. Ils ont vu la Bolivie comme un pays homogène alors que ce n'est pas le cas. Mais le retour du MAS, je ne sais pas comment ça va se passer. J'espère qu'ils ne vont pas mener des représailles. Et c'est récurrent en Bolivie. Quand le MAS a pris le pouvoir, ils ont coupé les têtes à droite. Quand Jeanine a pris le pouvoir, elle a poursuivi les soutiens du MAS. Si Arce fait la même chose, il va y avoir de nouveaux conflits, forcément.
Sergio s'inquiète également des résultats officiels qui seront révélés dans quelques jours. Si l'écart entre les deux premiers candidats est moins important qu'annoncé, un deuxième tour pourrait à nouveau attiser les tensions.
Alors finalement, vous savez, il n'y aura pas de second tour car Luis Arce a été élu au premier. Sachez aussi que plusieurs milliers de personnes, des Indiens notamment, ont manifesté mercredi en Colombie cette fois lors d'une nouvelle journée de mobilisation contre le gouvernement de droite du président Iván Duque. Avant de vous retrouver, Jeannette Bougra, notons le retour en quelque sorte vers le passé au Liban. Déjà 3 fois Premier ministre du Liban, Saad Hariri a été une nouvelle fois chargé jeudi de former un gouvernement appelé à engager des réformes longtemps ignorées par la classe dirigeante, mais vitale pour enrayer l'effondrement économique du pays. À Beyrouth, jeudi, Laure Stéphane.
Comme prévu, Saad Hariri a été désigné Premier ministre et il n'a obtenu qu'une courte majorité. Sur les 120 députés actuellement en poste, seuls 65 l'ont nommé. Des blocs importants comme ceux du Hezbollah, du parti fondé par le président Michel Aoun ou des forces libanaises n'ont pas apporté leur soutien à Saad Hariri pour des raisons différentes, mais ils n'ont pas proposé de concurrent, ils n'ont donc pas entravé sa possible prise de fonction. La tâche s'annonce maintenant ardue, former un gouvernement et obtenir l'aval du Parlement. Saad Hariri a dit vouloir s'inscrire s'inscrire dans le cadre de l'initiative française au Liban et vouloir composer une équipe de spécialistes non partisans. Cette formulation fait grincer des dents ses adversaires. Il est lui-même un politicien. Le Liban n'a pas le luxe de longues négociations, comme cela se passe souvent. Le pays est en banqueroute. Il est sommé d'enclencher des réformes pour espérer obtenir des fonds internationaux. Le retour de Saad Hariri est un camouflet pour la contestation qui réclame toujours un renouveau politique. Mais les dirigeants mènent leur propre lutte interne pour le pouvoir, loin des revendications de la rue. Ils comptent sans doute encore moins les écouter que la contestation s'est essoufflée.
Dans l'actualité internationale, il faut aussi noter évidemment la poursuite des combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui revendiquent le Nagorno-Karabakh. Et noter que l'armée américaine a annoncé jeudi avoir mené une frappe contre des responsables d'Al-Qaïda dans le nord-ouest de la Syrie. Une opération qui aurait tué 17 djihadistes selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Nous sommes toujours en compagnie de Jeannette Bougrabe qui vient d'écrire Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen. Saad Hariri nous permet de faire une liaison presque parfaite avec l'Arabie Saoudite et un certain MBS, Mohamed Ben Salman.
Le fameux Mr. Bonson, comme l'appelle la presse américaine. Donc,
il faut rappeler pourquoi.
Il faut rappeler pourquoi, parce que c'est l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, qui était chroniqueur au Washington Post, qui a quitté, en fait, après la purge, une des purges qui a été menée par Ben Salman lorsqu'il a été nommé, lorsqu'il avait arrêté un certain nombre de hauts dignitaires qu'il avait enfermés pendant plusieurs mois dans un hôtel, le Carlton, à Riyad, afin de les contraindre à céder leurs milliards, soit des milliards sans doute liés à la corruption, sans doute, mais ça ne justifiait pas que des soldats de l'officine Blackwater viennent faire cela. Donc il fuit l'Arabie Saoudite et il devient l'un des chroniqueurs les plus virulents en fait contre Ben Salman, à critiquer les réformes qu'il mène. Et comme en réalité il connaît très bien les arcanes du pouvoir parce qu'il était proche du pouvoir, en fait, et quand il va à Istanbul, il est dépecé comme une carcasse de viande après un guet-apens qui a été mené alors qu'il allait chercher des papiers pour pouvoir épouser sa compagne turque, qui vient d'ailleurs de déposer un recours aux États-Unis contre Ben Salman pour demander réparation de l'assassinat de son fiancé. Et en fait, on voit bien les méthodes de Ben Salman, parce que toutes les chancelleries occidentales ont été un peu fascinées par ce jeune prince, sans doute.
J'ai encore en tête quelques livres en France qui étaient quasiment des livres géographiques.
Oui. On s'imagine que, alors que dans toute cette fratrie, en réalité, c'est sans doute celui qui est le moins cultivé, parce qu'il a une licence d'administration de l'université de Riyad. Il a jamais fait d'études à l'étranger, il a appris l'anglais avec des jeux vidéo, mais c'est pas grave, après tout, il est reçu à Buckingham Palace, il est reçu en France, et on se souvient très bien comment Emmanuel Macron l'a reçu, en privatisant le Louvre. Alors c'est assez surprenant quand on sait qu'il est capable de kidnapper un chef de gouvernement, à savoir Hariri, puisqu'en fait, il reprochait à Hariri d'être trop proche des chiites, en fait, parce que son obsession, c'est l'influence iranienne dans la région. Et on sait que l'influence iranienne est plus importante en Syrie, qu'elle a gagné dans le sud Liban. Et donc, il est capable de kidnapper un chef de gouvernement, et sans l'intervention de la France, on ne sait pas ce qui... et le contraindre à démissionner. On se souvient de cette vidéo, on voit donc Hariri pâle comme un linge, en train de dire qu'il démissionnait pour revenir sur sa démission une fois libéré. Donc, comment peut-on s'allier avec un homme comme ça, un jeune pressé qui n'a qu'une en tête, l'accession au pouvoir et légitimer son pouvoir? Moi, je suis effrayée. En fait, il y a Agnès Callamard qui a été rapporteur spécial, qui a enquêté sur l'assassinat et qui a écouté, en fait, puisque les Turcs avaient mis sur écoute l'ambassade saoudienne. Donc, on a tous les détails de cette exécution. Et donc, on se dit, mais comment continuer, en fait, en tout cas, sans demander des comptes, en réalité, à l'Arabie Saoudite? Moi, ce qui me surprend, c'est que quand vous dépendez éventuellement de l'Arabie Saoudite pour votre ressource énergétique et que c'est un très bon client, puisque la France a vendu pour 11 milliards d'euros d'armes en 9 ans, vous fermez les yeux, vous ne demandez rien. C'est peut-être audacieux, mais regardez la différence de traitement avec la Russie. La Russie, l'Allemagne et la France demandent des sanctions à l'endroit de la Russie suite à la tentative d'assassinat de cet opposant. Mais là, le nombre de personnes qui sont détenues dans des geôles saoudiennes, je pense à Louja Adjoul, qui a reçu le prix de la paix alors qu'elle est détenue en prison, qu'elle est torturée. Je pense à ce prêtre palestinien, je pense à Raif Badawi. donc dont l'épouse est réfugiée au Canada, ses trois enfants. Il est condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet pour avoir dit qu'on est tous égaux, quelles que soient ses confessions religieuses. Et on pense que cet homme-là qui a fait kidnapper Lu Jianzhu, cette jeune femme qui avait commencé à conduire alors que les femmes étaient interdites, qui a été kidnappée à Abu Dhabi, parce qu'il y a MBS et il y a MBZ dans les Émirats arabes. Et donc je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible.
Ah, tout ça au nom du pétrole, tout ça au nom de contrats économiques, d'armement notamment.
Oui, d'armement, et puis on promet des contrats faramineux, en fait, la construction de centrales nucléaires, l'achat d'avions, l'achat de, etc. Mais il faut pas penser que de violations flagrantes de droits de l'homme, la paix peut naître. Ça, j'en suis totalement convaincue. Et c'est très surprenant parce que la vision littérale de l'islam qui est prônée en Arabie Saoudite est contraire aux valeurs et à nos principes et nos valeurs.
Donc le foyer du wahhabisme.
Le foyer du wahhabisme, c'est lui qui a permis de légitimer en réalité de commettre les pires exactions. On oublie le 11 septembre, on oublie Al-Qaïda, on oublie l'État islamique.
Mais nous, on n'oublie pas parce que dans cette émission, on avait invité il y a quelques temps déjà Pierre Conessa que vous citez dans le livre et qui nous a très bien expliqué.
Les sources de financement. C'est-à-dire que les fondations saoudiennes ont financé plus pour l'expansion du wahhabisme qui va fonder en fait les pires actes que l'Union soviétique pour diffuser l'idée communiste.
Alors les Saoudiens disent aujourd'hui que c'est fini ce temps-là et qu'ils se sont maintenant...
Maintenant qu'ils ont créé un golem qui se retourne contre eux, mais c'est pas tout à fait le cas parce que on parlait de l'élection américaine. Joe Biden, lorsqu'il était encore vice-président américain, avait bien dit lorsqu'il faisait une conférence à Harvard à propos de l'État islamique que les plus grandes difficultés venaient de nos propres alliés. Alors il fait une conférence publique, ça a été relaté par le Washington Post, en disant, oui, la haine anti-Assad était tellement violente de la part de nos alliés, à savoir l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie, qu'ils ont alimenté, ils ont déversé des centaines de millions d'euros et des armes à des islamistes. On armait des islamistes. Donc, et ensuite, pour mieux abandonner les Kurdes, donc ceux qui luttaient contre les islamistes. Donc, vous savez, alors je vais le prononcer, je vais sans doute encore faire... je prononce très mal les prénoms. Solenevski, le prix Nobel de littérature, quand il parlait de ces errements de la politique internationale. On a armé les talibans pour lutter contre l'Union soviétique, mais on n'apprend pas de nos erreurs. Ça me fascine pas. Je suis pas, comme disait Camus, les gens avaient cette fascination pour le mal. Moi, je l'ai pas. Et je me dis, là, on préfère, en réalité, fermer les yeux pour quelques milliards d'euros. Mais ce qui va en sortir, c'est pire. C'est pire. Et moi, je me résous pas à voir des enfants mourir de faim. 100 000 enfants morts, au nom de quoi? Pour asseoir le pouvoir d'un jeune prince pressé d'accéder au pouvoir d'un État qui n'existait pas encore il y a moins de 100 ans, et pour s'assurer son approvisionnement en énergie hydrocarbure, on devrait s'interroger là-dessus. Moi, j'arrive pas à m'y résoudre. Je pense à Loujain qui est dans sa geôle, je pense à tous ceux qui ont été, à cette jeune femme chiite qui est condamnée à la décapitation, je pense à ce jeune Ali qui a été condamné à mort, à la décapitation, la crucifixion. Enfin, c'est quoi? C'est pas possible. Et juste un chiffre, pardonnez-moi, pour se dire qu'on a, en termes rapportés à la population, il faut savoir que l'Arabie Saoudite exécute plus que la Chine. Donc, c'est quand même très surprenant comme allié, non?
Une semaine d'actualité. Avant de parler de l'assassinat de Samuel Paty, Jeannette Bougrabe, il y a un peu plus d'une semaine, donc, à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, non loin de Paris. Revenons sur l'épidémie de Covid-19 qui poursuit quasi inexorablement sa progression. De nouvelles villes vont connaître le régime du couvre-feu nocturne. Décision prise jeudi, Marie Cassade-Bègue.
Ce sont les deux tiers des Français qui sont ainsi soumis à un couvre-feu et qui devront pendant au moins 6 semaines rester chez eux de 21h à 6h du matin. Le Premier ministre le reconnaît, cette mesure est lourde, mais pour en expliquer la nécessité, Jean Castex a dressé un tableau sombre de la situation de la France.
Les semaines qui viennent seront dures. Nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve et le nombre de morts va continuer d'augmenter. Les nouveaux cas d'aujourd'hui sont les malades hospitalisés de demain et malheureusement parfois les morts d'après-demain. Le mois de novembre sera éprouvant nous le savons déjà.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, a ensuite apporté quelques données significatives. Le nombre de malades pour 100 000 habitants et le nombre de nouveaux tests positifs enregistrés par 24 heures double tous les 15 jours. Les premiers effets du couvre-feu devraient être connus en milieu de semaine prochaine. S'ils ne sont pas convaincants, le Premier ministre n'écarte pas de durcir encore le dispositif, sans préciser comment, mais en soulignant que la France ne disposait pas de beaucoup de temps pour agir.
Les mesures restrictives se multiplient d'ailleurs en Europe face à cette résurgence du coronavirus. Notez par exemple qu'un confinement partiel est entré en vigueur jeudi en République tchèque et un couvre-feu est instauré dans deux régions italiennes alors que l'Irlande s'est confinée mercredi soir. Mercredi soir, dans la cour de la Sorbonne à Paris, a donc eu lieu une cérémonie d'hommage national à Samuel Paty. Reportage d'Anthony Latier.
Un morceau de U2 retentit dans la cour de la Sorbonne alors qu'arrive le cercueil porté par la garde républicaine. Premier moment d'un hommage national singulier à un homme d'abord, mais aussi à une profession et aux valeurs qu'elle transmet. Ses anciens collègues citent Jean Jaurès.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie.
Avant qu'Emmanuel Macron ne vante un professeur passionné et humble, victime de l'ignorance et de la barbarie.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes.
Solennel et combatif, le président français fait ensuite cette promesse.
Nous continuerons ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage. Parce que nous vous le devons. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.
À l'extérieur, la foule applaudit. À l'intérieur, 400 personnes se recueillent en silence jusqu'au départ du cercueil sur un air de Mozart.
Il vous faut savoir que 7 personnes ont été mises en examen mercredi, dont 6 pour complicité d'assassinat terroriste. Une quinzaine d'enquêtes pour des faits d'apologie du terrorisme, menaces de mort ou provocation au crime ont été ouvertes depuis l'assassinat de Samuel Paty. Je vous rappelle aussi qu'une mosquée au nord de Paris, à Pantin précisément, a été fermée mercredi soir. Elle est accusée d'avoir participé à la vindicte contre le professeur en relayant une vidéo d'un parent d'élève qui a été en contact avec le tueur. Jeannette Bougrabe, ça fait des années que vous dénoncez, que vous êtes en lutte, que vous menez le combat contre cet islamisme, ce djihadisme. Je pense notamment à votre lettre aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent. Dans ce livre d'ailleurs, cette lettre aux femmes, vous mettez en exergue une phrase de Camus. « Je suis en état de révolte et ça c'est mauvais, donc on va essayer d'oublier la révolte. » Quel est votre état d'esprit aujourd'hui?
J'ai l'impression d'avoir été un Don Quichotte parce qu'en fait j'avais déjà écrit dans Ma République se meurt en fait en 2013 en fait cet abandon du principe qui pour moi permet en tout cas à des Français venus d'ailleurs, moi mes parents je suis d'origine algérienne, mes enfants sont asiatiques, donc de permettre de vivre ensemble et c'est cette France-là qui nous faisait rêver en fait et qu'on l'a perdue déjà depuis quelques années. Il y a quelques années, en fait, il y avait ce collectif d'enseignants sous le titre « Les territoires perdus de la République » écrit sous le nom d'Emmanuel, le pseudonyme d'Emmanuel Brenner, avait montré que sur certaines parties du territoire en France, on ne pouvait plus enseigner certaines choses et qu'il y a une forme d'abandon, en fait, de lâcheté de la part des échelons sans doute intermédiaires de l'éducation nationale. Et donc, et surtout, ce qui est assez le cri de... En même temps, je n'ai pas envie de polémiquer, c'est pas le sujet. C'est que je pense que la France a souvent pensé qu'elle était seule au monde, en fait, que ce qui se passait ailleurs ne lui arriverait jamais. Elle n'a pas compris, en réalité, que parfois elle a même donné asile à des gens qui étaient qui faisaient l'apologie du terrorisme. Moi, j'ai toujours été.
Tout a commencé en 79, déjà.
Commencé en accueillant Khomeini, voilà, et que une partie de la gauche s'est fourvoyée depuis très longtemps. On oublie de citer.
Même certains intellectuels comme Michel Foucault, d'ailleurs.
Michel Foucault, qui appelait le saint homme Khomeini, et de dire que cette idée qu'en réalité, derrière ce combat, en fait, qui est d'abord un combat théologique, c'est un combat social, parce que c'était ça, en fait, Foucault. Il ne voyait pas réellement la dimension religieuse. Pour lui, c'était une sorte de renversement, en fait, par rapport aux puissances coloniales, en fait. Il a raccompagné sur le tarmac Khomeini dans son pays après la révolution. Il l'accompagne. Il avait fait une série de reportages pour le Corriere della Sera. Mais Foucault n'est pas le seul qui s'est fourvoyé. Pourtant, ce que fait Khomeini, une des premières des choses qu'il fait, c'est toucher, en fait, aux femmes. Et notamment en imposant le voile. Et il touche aux universitaires. Et je pense notamment, j'en profite pour citer Nasrin Sotoudeh, qui est cette avocate qui est toujours détenue en prison, qui a été changée, on a changé, qui était à la prison d'Evin, qu'on appelle Evin University, tellement il y a d'intellectuels dans cette prison qui sont arrêtés. Et qui se bat, qui est restée, qui était aussi l'avocate de Shirin Ebadi, la prix Nobel de la paix, et qui a choisi de rester dans son pays pour dénoncer, pour continuer de défendre ces jeunes femmes qui refusent de porter le voile. Voilà. Pardonnez-moi, je m'égare parfois, mais...
Ça est lié de toute manière, Jeannette Beaugrand. Mais est-ce que vous êtes aussi pessimiste qu'Elisabeth Badinter, qui dans un papier là, ces jours-ci dans l'Express, ça date de vendredi, exprime son pessimisme en fait?
Ah, mais je pense qu'il faut, c'est pas du pessimisme, c'est du réalisme.
Elle dit qu'il faudrait changer les lois, organiser une guerre idéologique, mais aussi législative contre les islamistes, et cela ne se ferait pas sans des répliques terribles de la part du camp adverse.
C'est vrai, je pense qu'il faut, puisque vous êtes écouté à l'étranger, c'est qu'il faut être prudent, parce que lors de la publication des caricatures par le journal danois, qui sont pas totalement les mêmes dessins qui sont publiés en ce moment, des diplomates danois ont été assassinés à l'étranger, donc il faut savoir que cette guerre qu'on va mener, elle ne veut pas se limiter aux frontières de l'Hexagone, que des sites diplomatiques ou des sites français vont être touchés. Ça, c'est une réalité. Et donc, quand vous êtes en face de gens qui divinisent la mort, en fait. La mort est plus importante que la vie. Et c'est ce qu'avait dit Ben Laden, en réalité. Donc, quand la mort est plus importante que la vie, vous comprenez bien que des jeunes gens seront prêts à tuer. Mais ce que j'ai... Enfin, comprenez-vous, on parlait de Malala au début de l'émission, c'est une jeune musulmane. C'est-à-dire que cette violence des intégristes se porte également sur des musulmans. Enfin, les premières victimes de l'islamisme algérien, c'était les Algériens. J'ai retweeté ce qu'avait dit Lounès Matoub, ce chanteur kabyle qui a été abattu par les islamistes en Algérie. Il parlait de fascisme vert. Je pense qu'à l'époque, en France, on a dû le prendre pour un fou. Enfin, l'on prenait pour un fou, d'ailleurs. Et donc, il disait, mais ça arrivera en France. Ça arrivera en France. Et on se souvient très bien, j'avais eu le privilège de rencontrer Ali Haroun, qui était ministre dans le gouvernement algérien, au moment du report des élections en Algérie. Voilà. Et on se souvient de la phrase très, très dure de Mitterrand, en fait, quand il avait critiqué le report des élections législatives. Et avait accueilli, en fait, des islamistes qui étaient pourchassés par l'État algérien. Et donc, il disait, mais si vous pensez que ce processus démocratique va empêcher des femmes d'être assassinées parce qu'elles sont libres, elles veulent être libres de porter ce qu'elles veulent, vous avez tort. Et il faisait une liste des exactions qui avaient déjà eu lieu.
La France, qui est au cœur de votre livre, Jeannette Beaugrand, sur le Yémen et sur cette indifférence et sur l'Arabie saoudite, vous la critiquez durement, son oui. Soutien à tout prix, quasiment, sans jeu de mots.
Sans soutien à tout prix, parce que c'est quand même très surprenant.
À l'Arabie saoudite, tout régime confondu, d'ailleurs.
Oui, mais parce qu'en réalité, c'est très étrange à quel point la politique du carnet de chèques demeure très efficace. Mais ça, on le paye très cher, ça. C'est qu'on le paye très cher, parce qu'il continue, les fondations saoudiennes, elles continuent de financer des madrassas, elles financent des universités, elles financent une conception de l'islam qui est figée au 7e siècle. Moi, je l'ai vu au Yémen, on le voit au Pakistan, vous avez en fait des madrassas ou des petites filles. Moi, j'ai fait un documentaire sur interdite d'école. C'est pour ça que j'ai voyagé, en fait. C'est ça qui m'a permis d'aller dans le Swat, au Pakistan, d'aller au Kenya et d'aller au Guatemala. Donc, j'ai pu voir toutes ces petites filles courageuses qui, sur le chemin de l'école, pouvaient être assassinées juste parce qu'elles voulaient s'instruire. Voilà. Et pour elles, on trouve toujours 25 raisons à empêcher des petites filles de s'instruire. Voilà. Et donc, Moi, je ne comprends pas, parce que même aux États-Unis, alors qu'il y a le pacte de Quincy qui lie en fait la protection...
C'est célèbre depuis 1945.
Oui, qui lie en fait les États-Unis et l'Arabie Saoudite, les Américains demandent des comptes à l'Arabie Saoudite. Nous, jamais. Et même au moment de l'assassinat de Khashoggi, qui a quand même fait la une de la presse internationale, c'est-à-dire que même 600 000 morts ne permet pas de mobiliser certaines rédactions, il n'empêche que la mort d'un seul homme a fait plus parler de la guerre au Yémen que ces 600 000 petites victimes. Eh bien, il y a eu un débat au Sénat, il y a eu un débat à la Chambre des représentants, il y a eu une motion à l'unanimité qui a été votée au Sénat. Nous, on a eu un ministre des Affaires étrangères qui disait, mais pour le moment, on n'a pas de preuves.
Qui a tardé, hein, effectivement.
Plus que tardé. Et quand on disait, on interrogeait le chef de l'État en disant, mais il faut peut-être suspendre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, il vous disait que l'assassinat de Khashoggi n'avait rien à voir. De même, on nous explique aussi que armer l'Arabie Saoudite, c'est lutter contre le terrorisme. Enfin, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie quand on sait que les Américains n'osent même plus avancer cet argument pour continuer leur lien avec les Saoudiens.
Et je précise que dans votre livre, Jeannette Bougrain, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, vous ne prenez pas non plus la défense des Houthis dont vous dites effectivement que ce ne sont pas des anges.
Ils sont coupables de crimes de guerre, ils utilisent des enfants soldats, ils ont posé des mines antipersonnelles. La seule chose aussi qu'on oublie, c'est que les Saoudiens utilisent des enfants soldats qui viennent notamment d'Afrique. Et donc, je trouve payer 450 $ pour faire leur sale besogne, c'est immonde. Voilà.
On reparlera d'ailleurs des Érythréens et des Soudanais sur le théâtre d'opération, comme on dit, au Yémen dans un instant. Jeannette Bougrain. Électronique, merci pour vos messages. Un salut à quelques-uns de nos auditeurs africains, comme chaque samedi. Bonjour aujourd'hui à Alexander Emmanuel, qui est médecin au CHU de Conakry, et à Ibrahima Sori, également dans la capitale de la Guinée. Un bonjour à Johnny à Kinshasa, Hippolyte à Cotonou, Abdoul à Bangui. Un salut à Mahamadou à Pikine au Sénégal, Robert à Yaoundé, Anani à Cotonou, et à Harry Adrien à Toa Massina à Madagascar.
Une semaine d'actualité.
Jeannette Bougrain, partons pour l'Afrique en trois étapes, si vous le voulez bien. D'abord au Nigeria. Le Nigeria s'est réveillé mercredi matin sous le choc, au lendemain de l'attaque de manifestants pacifiques par des forces armées à Lagos. Affrontements qui ont fait au moins 12 morts selon Amnesty International. Correspondance de Lisa Fabian.
Un drapeau nigérian taché de sang, c'est l'image qui restera à l'issue de cette journée de mardi marquée par l'intervention des forces de sécurité à Lagos. Le mouvement de la jeunesse nigériane se voulait pourtant résolument pacifique. Il a finalement basculé dans le chaos. Ces derniers jours, des bandes de casseurs avaient fait leur apparition en marge des rassemblements dans plusieurs villes du pays. Des manifestants ont été grièvement blessés par ces jeunes qualifiés de voyous qui ont aussi incendié plusieurs commissariats. Face à ces violences que les manifestants disent orchestrées par le pouvoir en place, les autorités nigérianes ont pris ce mardi une série de mesures pour ramener le calme dans le pays. Un couvre-feu de 24 heures a notamment été décrété dans la mégalopole de Lagos, qui compte 20 millions d'habitants. Le chef de la police nigériane a annoncé dans la foulée le déploiement de la police anti-émeute sur tout le territoire, alors que les militaires déjà déployés dans la capitale Abuja faisaient discrètement leur apparition dans les rues de Lagos. Malgré ces annonces, les manifestants ont poursuivi leur sit-in sur le principal péage de la capitale économique. Mais à la tombée de la nuit, ils ont été brutalement dispersés par les tirs nourris des forces de sécurité qui sont intervenues sur place 2 heures avant le début du couvre-feu, officiellement fixé à 21h.
Dans l'actualité africaine, il faut aussi souligner des tensions électorales persistantes en Côte d'Ivoire avant l'élection présidentielle du 31 octobre prochain et des violences ces derniers jours à Dabou, précisément, correspondance de Pierre Pinto.
Ce mercredi, d'importants renforts de gendarmerie sont arrivés d'Abidjan pour tenter de rétablir le calme à Dabou. La ville a été en effet le théâtre d'affrontements et de pillages. Des tirs d'armes automatiques ont même été entendus. Cette ville, située à une trentaine de kilomètres de la sortie d'Abidjan, connaît depuis lundi des tensions croissantes. Un cap a été franchi mardi avec la mort d'au moins trois personnes, notamment celle d'un jeune homme d'une vingtaine d'années tué à la machette dans le village de Passe, en périphérie de la ville, par des délinquants qui ont pillé une ferme et saccagé une école. Ce mercredi, des jeunes des villages alentours sont montés à l'assaut des quartiers malinqués dans ce qui ressemblait à des opérations de représailles. En fin de journée, les autorités dénombraient au moins 4 nouveaux morts, portant le total de ces dernières 48 heures à 7. Pour le préfet de Dabou, des éléments inconnus, pour certains armés de Kalachnikov et bien formés, sont venus attiser le conflit. Initialement, une banale confrontation politique entre tenants du pouvoir et de l'opposition s'est muée en un conflit entre Dioula et Adioukrou, mais nous sommes convaincus qu'une milice bien armée a voulu récupérer cette confrontation, estime Réminzi Kanga. D'où viennent-ils? Je ne saurais le dire, se désole encore le préfet.
Suite d'une semaine d'actualité, dernière étape de ce voyage africain, décidément bien sombre, en Tanzanie où quelques 300 terroristes ont récemment attaqué un poste de police dans le sud de la Tanzanie, près du Mozambique, donc une attaque revendiquée par le groupe État islamique qui mène depuis 3 ans une insurrection djihadiste dans le pays voisin. La police a fini par le reconnaître jeudi. Charlotte Cosset.
Des vidéos et photos montrent des bâtiments en feu. Les assaillants crient « Allahu Akbar » et tranchent la gorge d'un homme sans vie. Une attaque revendiquée dès le 15 octobre par l'État islamique, ce que confirme finalement la police tanzanienne, Simon Siro, directeur général de la police.
C'est vrai, la semaine dernière, plus de 300 terroristes du Mozambique ont attaqué le village de Kitaya. Ils ont pillé et assassiné plusieurs personnes. Nous les avons suivis et avons réussi à en arrêter quelques-uns, dont certains sont des Tanzaniens. Mais je voudrais assurer le pays, comme je le dis toujours, si vous tuez un Tanzanien, nous nous battrons durement.
Une insurrection djihadiste est active dans la province frontalière du village de Kitaya, côté Mozambique, depuis 2017. Une crise qui, selon les ONG et l'ONU, aurait déjà causé la mort de plus de 2000 personnes et fait plus de 300 000 déplacés. Une région stratégique sur la côte, côté Tanzanie, se trouve à quelques dizaines de kilomètres de là des champs gaziers. Une attaque qui intervient également peu de temps avant les élections présidentielles prévues le 28 octobre prochain.
L'actualité africaine, c'est bien sûr le résultat de l'élection présidentielle en Guinée. On vous en parle ce matin dans nos journaux et nous y reviendrons évidemment la semaine prochaine. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Jeannette Bougrab, dans ce livre, vous notez que l'Arabie Saoudite fait appel dans ses combats au Yémen à des mercenaires et notamment des Érythréens et des Soudanais.
Ce qui est en violation des règles, en fait, des résolutions des Nations Unies. Donc, oui, parce que l'Arabie Saoudite n'a pas de soldats et en fait, il mène une guerre, mais.
Pourtant, c'est un pays très importateur d'armes.
Ah, vous pouvez avoir les armes les plus sophistiquées, mais à un moment ou à un autre, il faut aller sur le terrain et se battre. Et il n'est pas question, en réalité, pour que cette guerre soit acceptée par les sujets du royaume, il faut surtout pas qu'elle meure. Donc en réalité, vous avez vu récemment, il y a eu un échange de prisonniers, c'est que ces guerriers venus du fond du temps, en fait, que sont les Houthis avec leur jamba en fait à la ceinture, se sont relevés de redoutables adversaires. On est dans le cadre d'une guerre asymétrique et peut-être que certains de vos auditeurs se souviendront de la prise d'otage de la Mecque en 79 où en fait l'Arabie Saoudite était incapable, en fait sa garde royale était incapable de venir à bout de quelques jeunes qui avaient décidé de renverser le pouvoir. Donc ils font appel.
Il fait appel aux Français d'ailleurs.
Il fait appel notamment à Barry qui s'était converti et qui a fait une conversion express pour pouvoir rentrer parce que les non-musulmans ne peuvent pas aller à la Mecque. Et donc du coup ce qui est assez affreux dans cette guerre, c'est qu'en fait c'est une guerre de riches contre des pauvres et on envoie soit on fait appel à des jeunes mercenaires parce que ce qu'on parle des Érythréens, ils ont parfois 14, 15 ans, 16 ans qu'on envoie à la boucherie. Ils ont fait aussi appel à des boîtes privées américaines américaines comme Blackwaters ou Dinkorn, qui sont des boîtes de mercenaires qu'on a notamment
beaucoup entendu parler
pendant la guerre en Irak, qu'on fait quelques bavures et qui ont été en réalité auditionnées par le Sénat américain. Donc quand même, juste ça devrait quand même effrayer. Il y a des mercenaires australiens qui ont été tués sur place. Mais quand vous êtes dans une guerre asymétrique comme la guerre du Vietnam, quand vous avez en face de vous en fait des gens dont c'est la terre, quand on vient vous chercher, vous pouvez avoir les armes les plus sophistiquées, ça ne marche pas. Et ce qui est de plus scandaleux, c'est qu'en réalité, ils achètent des armes, mais ils achètent aussi une formation, l'entretien de ces matériels qui est donné par les États occidentaux. Ce que je reproche, et qui sera, je l'espère, un jour poursuivi devant la justice, parce qu'à un moment, le droit doit bien reprendre sa place, c'est que ce soit les Américains qui ravitaillent les avions, qui bombardent, qui tapissent de bombes des sites archéologiques remarquables, qui bombardent des entrepôts alimentaires, qui bombardent des écoles, des convois funéraires, des mariages. C'est des positions qui sont données par soit données par la France, soit par les États-Unis, par le Royaume-Uni. Donc on est dans le cadre d'une forme de co-belligérance. Voilà. Ce qui est assez dans la guerre au Levant, en fait, la France, les États-Unis ont été clairement là. Là, ils sont en sous. C'est ça qui peut-être n'apparaît pas clairement, mais n'empêche, si on renvoie aux chroniques de Claude Angéli dans Le Canard Enchaîné, quand on renvoie à l'enquête qui a été faite, mais beaucoup plus tard, de Disclose ou encore de la cellule d'investigation de France Inter, on voit bien que la guerre qui est menée par l'Arabie Saoudite, on cible majoritairement des cibles civiles. Et quand on utilise la famine comme arme de guerre, dans tous les guerres, il y a quand même quelques conventions internationales. C'est une guerre inhumaine, injuste, et l'Arabie Saoudite, même si les Émiratis se sont retirés, parce qu'au début c'était une coalition d'un peu plus de 10 États, au fur et à mesure, et surtout après l'assassinat de Khashoggi, certains États, comme le Maroc, se sont retirés. Ils ont dit on vous laisse votre sale guerre, parce que ça va bientôt faire 6 ans. C'est parce qu'on continue de soutenir l'Arabie Saoudite que cette guerre a lieu. Si demain on disait ça suffit, on arrêterait cette guerre.
Et vous y croyez à ce demain où on pourrait dire ça suffit ?
À ce demain, moi je crois beaucoup. Ce livre, j'ai essayé de tendre une perche à notre gouvernement, mais je suis modeste. Je sais bien qu'aucune personne va le lire. Je ne suis pas sûre que la cellule diplomatique du ministère, enfin de l'Élysée, parce qu'en fait tout se décide à l'Élysée, prendra la peine de lire le livre. Mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas, Joe Biden, l'élection de Joe Biden est un espoir, est une réelle lumière d'espoir pour le Yémen, parce qu'il s'est exprimé en disant que la guerre au Yémen devra cesser, et lui-même est réaliste sur ce que sont nos alliés, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, lors d'une conférence à Harvard, il savait très bien qui finance les groupes islamistes, donc il n'est pas idiot, et donc il y a eu un article récemment de vos confrères de L'Orient le Jour, qui disait que les pétromonarchies commençaient à s'inquiéter, parce qu'on va rééquilibrer la réelle.
D'autant que les États-Unis n'ont plus besoin de l'Arabie Saoudite pour le pétrole maintenant.
Non, ils ont gaz de schiste. Et de toute façon, ils ont moyennement apprécié la politique qui avait été menée par Ben Salman de forer à tout va et a fait effondrer les cours du pétrole. Donc la volonté de Ben Salman s'est plutôt révélée désastreuse, puisque y compris Donald Trump était prêt à le débrancher.
Merci, elle est débranchée, la formule est belle.
On aimerait tant.
Merci Jeannette Bougrabe, votre livre s'intitule Un silence de mort, la sale guerre oubliée du Yémen, il est publié aux éditions du Cerf. Merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée, le mot est important par les temps qui courent. Et nous serons en compagnie d'Elara Berthaud, qui est historienne et spécialiste de l'Afrique. Elle va nous parler de Djigiba Camara, un historien guinéen à l'époque coloniale, un homme qui, en 1955, a rédigé l'histoire de la Haute-Guinée avec une attention particulière portée sur l'empire de Samori Touré et la résistance anticoloniale. Demain dimanche, donc, je vous rappelle la phrase de Voltaire, extraite de sa correspondance, que je citais au début de ce numéro d'une semaine d'actualité. Plus la raison se développe, plus elle effraie le fanatisme. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.